Ce jour est dédié pour la réussite de Aaron Shalom Tuvia Ben Elisabeth. À la question de Sacha.
Quand on est plus marmire dans la cache-route.
Quand on veut être plus sévère au niveau de la cache-route, oui.
Qu'est-ce qui est autorisé quoi, pour.
Qu'est-ce qui est autorisé quand on fait les achats, quand on est au restaurant, quand on va à l'hôtel, quand on va manger hors de chez soi ou même chez soi. Bon, il y a une chose que j'ai répétée souvent ici, quand je parle de la cache-route, une chose que les gens ne savent pas et ils se trompent. Il y a une grande erreur. Les gens croient que lorsque c'est marqué sur un emballage cachère, ça veut dire que ce qu'il y a dedans est cachère. Ou quand c'est marqué sur un restaurant, nous assurons que la nourriture donnée dans ce restaurant est cachère la méadrine. Méadrine, ça veut dire super cachère. On peut croire ce qui est marqué. Ça veut dire que tout ce qu'on mange est cachère. C'est faux, c'est impossible. On ne mange jamais cachère. On va dire qu'il y a 1000 degrés entre 0 complètement taref et 1000 super cachère, complètement cachère absolu. Il y a 1000 degrés différents. L'extrêmement rare qu'on mange un cachère à 1000%, à 1000 points. On mangera à 900, à 950, à 999. À 1000, peut-être quand on boit de l'eau dans un verre en plastique.
Peut-être.
Hein?
Peut-être.
Allez savoir que peut-être la nuit. Bon, ouais, si c'est un verre d'eau dans un verre en plastique, ça va. Dans un verre en verre, c'est déjà un problème. Parce qu'il est trempé au mikvé, oui, le mikvé était cachère.
Et le verre donc, de mettre au mikvé?
Pardon?
Le verre en verre, il a besoin de mettre au mikvé?
Absolument. Absolument, avec bracha. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on essaie de limiter la casse, on essaie de manger le moins non cachère possible. Il ne faut pas croire, parce qu'il y a une surveillance, que c'est cachère. Ce que la surveillance fait, c'est qu'elle dit on surveille. Ça veut dire, le type là, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas complètement délaissé et aller savoir ce que vous mangez. Il y a certaines surveillances que s'il veut rouler, faire une magouille, c'est plus dur pour lui. Mais est-ce que ça assure qu'il n'y aura pas de magouille? Absolument pas. Et il y a des magouilles, on sait très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de limiter la casse. Pour ça qu'on plus le Hercher sera sérieux, le Hercher c'est donc l'organisation qui donne le tampon de cache-route, elle est sérieuse, plus il y aura une surveillance qui sera rigoureuse, moins la personne qui subit la surveillance pourra faire des magouilles et tromper. Mais il y en a beaucoup. Le Rabbi Sonaba Shaoul, Zatzal, il disait que les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut essayer de faire le moins de péchés possible. Il disait manger sans hercher, sans surveillance rabbinique. Alors quoi, on mange n'importe quoi? Non, il dit ne compte pas sur une surveillance rabbinique. Tu fais pousser les tomates chez toi à la maison, tu traites ta propre vache, d'accord, bon, c'est impossible de faire ce qu'il disait. Et ne pas compter sur personne. Parce que la réalité est qu'il est extrêmement dur de manger complètement cachère. Ça ne veut pas dire que maintenant, ok, tout est permis. Absolument pas. Nous devons faire tous les efforts, on sera jugé là-dessus. Est-ce qu'on a fait tous les efforts possibles pour limiter la casse? Et si oui, alors on espère que Dieu nous aide pour la partie un peu floue, inconnue, que là-dessus aussi, Dieu nous guide qu'on ne va pas manger non cachère. Mais on a l'obligation de faire tous les efforts possibles, vraiment, pour manger le plus cachère possible. Et là, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Par quoi commencer? La viande, c'est une des grandes sources de problèmes. D'abord, il faut savoir que la viande, qu'on étudie dans le traité Roulin, il y a 18 sortes de tréfot, c'est-à-dire de défauts corporels qui rendent la viande non cachère. Elle a un trou dans la membrane crânienne, elle a un trou dans les poumons, elle a un trou dans l'intestin, elle a un trou dans l'estomac, elle a un trou, il y a 8 ou 9 dans la rate, etc. Toutes sur 8 ou 9 points que s'il y a un trou, ça ne rend pas cachère. Elle est tombée d'une certaine hauteur, dans une poule. Des fois, on prend le baquet, il y a des sortes de caisses comme ça avec des poules, et le type est sur le sommet de traillère, il lance comme ça 2-3 mètres, paf, elle tombe par terre. Une très grande question. Tu regardes, tout va bien, mais d'après la halakha, c'est pas cachère. Il y a donc 18 sortes de tréfot, de choses qui rendent la bête non cachère. Est-ce qu'on les vérifie dans la halakha? Non. La seule chose qu'on vérifie, c'est les poumons. Chaque bête. Pas chez les poulets, mais dans les bêtes, donc les moutons ou les vaches, etc. Après qu'on ait fait la shrita, qu'on ait égorger de façon rituelle comme il se doit la bête, on vérifie les poumons s'il n'y a pas un trou dans les poumons. On remplit d'air les poumons, on les met dans l'eau comme un pneu, on regarde ce qu'il y a de l'air qui sort. Même auparavant, avant qu'on sorte les poumons, le Shochet Bodek, l'égorgeur rituel, il met sa main sur les poumons, entre la cage thoracique et les poumons, et voit est-ce qu'il n'y a pas, s'il y a eu un trou, normalement ça fait une cicatrice, et ça fait qu'il y aura un petit filament, ou entre une partie des poumons et une autre partie des poumons, ou entre les poumons et la cage thoracique. Donc il passe sa main comme ça délicatement, voir s'il y a un filament, il repère l'endroit. Déjà pour les Sfaradim, ça baisse d'un degré. C'est déjà plus halak. Pour que ce soit vraiment top, halak, il n'y a aucun filament. C'est complètement propre. Maintenant, quand il y a un filament, alors, pour nous, c'est un problème. Ashkenazim, ils permettent, on appelle ça kasher. Il y a kasher, il y a halak. Halak, il n'y a aucun filament. C'est propre. Pour nous, c'est kasher. Le kasher des Ashkenazim n'est pas valable pour nous. C'était une coutume en Ashkenaz. Certaines communautés à Sfarad aussi tranchaient comme ça, mais la majorité, non. Le Shulchan Aruch des Sfaradim, le Maran, Rabbi Sof Karo, il dit que c'est interdit pour nous. C'est quoi ? Lorsqu'il sortait le poumon, il y avait maintenant le filament. Avec la main comme ça, il le frotte jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et comme ça, en fait, ce filament qu'elle crée, c'est une sorte de cicatrice. Elle part, et après, le poumon, il reste lisse. Maintenant, c'est pas certain. Peut-être qu'il y a un petit trou qu'on ne voit pas. Alors, on gonfle le poumon, on le met dans l'eau. S'il n'y a pas de l'eau qui sort, c'est kasher. Pour nous, ce truc-là s'appelle kasher, mais pas halak. Et pour le Sfaradim, c'est pas kasher. La viande kasher ashkenaz, elle n'est pas valable pour nous. Pour nous, il faut que ce soit ce que l'ashkenazim appelle glat, signifie lisse en yiddish, ou halak en hébreu, lisse aussi. C'est lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun filament. Maintenant, il faut voir beaucoup de choses. Est-ce que l'ashkenazim a été faite comme il faut ? Le couteau, il est bien aiguisé. Il y a plusieurs façons de rendre une shrita non valable. Donc des fois, il faut savoir ce que le shohat, il est valable. Est-ce que la bête, est-ce qu'elle n'a pas de défaut ? Comme je dis, on vérifie les poumons. Est-ce que c'est bien vérifié ? Parce qu'on essaie de bien vérifier, il y a 17 autres tréfodes qu'on ne vérifie pas. Alors, on peut les manger, parce qu'on dit, on compte sur le fait que la majorité des bêtes ne sont pas taref. Une bête, normalement, lorsqu'elle est taref, elle a un défaut, au bout d'un an, elle meurt. On voit que la majorité des bêtes ne meurent pas après un an. Donc, on compte sur une chazaka, la halakha permet cela, une chazaka, une présomption qui dit que la majorité des bêtes ne sont pas taref, on va après la majorité. Mais il se peut que quelque part, on a mangé une bête qui avait un problème et qui n'est pas cachère. Si on découvre. Le boucher après dit, écoute ce coup, maintenant voilà, il y a un trou dans la membrane crânienne, un trou dans l'intestin, toute la bête devient interdite. Mais si on n'a rien trouvé, on n'a pas cherché, mais il y avait, on n'a pas fait attention, d'accord. Il a pris la viande avec les intestins, tout qu'il a mis dans une machine, ça fait des soucis, ça n'a pas regardé s'il y avait un trou dedans. Alors ça se peut qu'on mange une bête qui n'est pas cachère. Néanmoins, l'Alakha nous dit, arrêt rabim le'atot. On va d'après la majorité, vu que la majorité des bêtes sont cachères, ne sont pas taref, on compte sur la majorité. Pour vous dire que même au niveau d'Alakha, c'est pas certain à 100 000% qu'on mange cachère. Celui qui veut être certain, il doit tout vérifier. L'Alakha ne demande pas de faire ça et personne au monde ne fait une chose pareille. Il y a des grands rabbins qui ne mangeaient pas de viande. Ou par exemple que du poulet. Le poulet, c'est plus facile à vérifier. Il n'y a pas 18 tréfautes dans le poulet. Maintenant, parlons plus sur le terrain. D'accord ? Exercer une surveillance pour vérifier que les produits utilisés sont cachers, ça coûte très cher. Il faut mettre un garde sur place sans cesse. Sans cesse, qui ait les yeux partout. Ça coûte énormément d'argent. La majorité des organismes qui donnent la cache-route mettent une surveillance de temps en temps. Par surprise, le garde vient, tac, il fait une visite surprise. Et s'il voit un truc qui ne va pas, il enlève la cache-route. Alors c'est vrai que la halakha permet d'agir ainsi. On considère que le propriétaire de la boîte ne veut pas perdre son bon nom comme quoi il fait de la nourriture cachère, donc il va faire attention, vu qu'à chaque moment le garde peut rentrer et l'attraper en flagrant délit, il fait attention. Entre nous c'est complètement faux. Ils font ce qu'ils veulent, on peut faire ce qu'on veut. Moi, ma belle-mère, quand elle avait un restaurant, elle avait un très bon cher du Rav Schlesinger, elle m'a dit, sachez, on peut faire ce qu'on veut. Si le type, le propriétaire, il n'est pas honnête, il n'a pas la crainte de Dieu très grande, c'est forcément qu'il y aura des trucs non cachers qui vont arriver. Je connais un restaurant avec un très bon air cher, d'accord. Un soir, Les gens sont arrivés assez tard, vers 11h30, comme ça, vers 11h du soir, quatre personnes sont venues manger, ils voulaient manger du steak. Le type, le cuistot, il va, il ouvre le frigo, il voit, c'est un goy, d'accord, c'est pas un juif. Bon, mais t'as un garde. Bon, à 11h du soir, le garde est rentré à la maison, et il va aller faire dodo, d'accord, mais il sait que dans le frigo, tout est très bien, tout est cachère. Le cuistot, goy, il voit le frigo, il n'y a pas de steak, il y a 4 clients qui veulent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il réfléchit pas beaucoup, lui, pour lui, il n'y a pas de problème, il va chez le restaurant voisin, son copain cuistot l'a dit, tu peux me prêter 4 steaks, moi je te les rends, pas de problème. Il leur a fait les 4 steaks et leur a donné. Ils ont mangé 4 steaks taref la méhadrine, d'accord? Taref. Avec bracha. Ça, c'est dans les cas où le type, il est idiot, mais très, très souvent, il n'est pas idiot. C'est le type qui veut gagner de l'argent. Il veut pas, ou bien maintenant, aujourd'hui c'est un peu mieux, on arrive à faire en cachère des choses qui sont de bonne qualité. Maintenant c'était naze, le cachère c'était toujours moins bon. Aujourd'hui c'est pas aussi vraiment aussi bien, mais c'est toujours un peu, à l'époque c'est vraiment beaucoup moins bon, aujourd'hui c'est un peu moins bon. Mon ravout à moi-même, il y a 20 ans, m'a raconté que son oncle, il a une usine agroalimentaire, il fait des aliments, et il voulait faire un sirop. Et il va voir l'ingénieur alimentaire, qui lui dit, voici la liste. Des produits qu'il te faut pour ton sirop. Ok, il vient au Badat, il voulait un sirop cachère. Le Badat dit tout ça va pas. On vous donne un palliatif, quelque chose à la place, vous mettez ça à la place, ça peut remplacer, mais en cachère. Il va revoir l'ingénieur alimentaire qui lui dit, écoute mon cher ami, tu mets ça à la place, ton sirop il est naze, il est pas bon. C'est cachère, mais c'est moins bon. Allez, moi je vais faire un truc cachère. Voilà, fais comme je te dis, regarde. La première fois, tu reprends la recherche du badat, tu commandes le produit qu'ils t'ont dit à l'usine, tu le prends et tu gardes le fût. Et après, tu prendras mon produit à moi, comme moi je t'ai dit, et quand tu le reçois, tu mets tout le liquide dans le fût du produit qu'eux ont dit que c'était cachère, et comme ça, personne n'y verra du feu, tout le monde fait comme ça, et comme ça, je suis dit de faire. Heureusement que ce type a été honnête, mais je ne vais pas rouler les gens, d'accord, c'est un type un peu religieux. Mais c'est l'ingénieur agroalimentaire qui lui donne le conseil comment rouler le badat. Alors, c'est clair, tous les herchers qui sont de pas excellente qualité, tous les trucs qui sont rabbinats, tout ce qui est de tous les pays, hein, d'habitude c'est extrêmement light, c'est très très léger. Alors, ça limite la casse. C'est pas complètement taref, mais c'est loin d'être complètement kasher, extrêmement loin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas croire que parce que c'est marqué cachère, on mange cachère. Ou bien c'est sur la faute du type. Non, c'est sur ta faute, mon cher ami. Un hercher qui n'est pas excellent, sache, c'est presque 50% que tu manges de la nourriture non cachère. Presque 100%, moi, j'aurais dit. J'avais ici à l'Eshiva un type qui a travaillé 2 ans dans la boucherie, il m'a dit, la plus connue de Paris. Tout le monde vient acheter là-bas. Pourquoi la viande, elle est belle, elle est rouge comme ça. Il m'a dit, c'est bien, pourquoi elle est rouge? Il ne fait pas la salaison. Il n'a pas dit qui? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Si je savais ce qui c'était, je hurlerais sur. Hein?
Tu es parisien, c'est qui?
Hein?
Tu es parisien,
c'est. C'était à Paris. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Il y a une boucherie qui est la meilleure de toutes, que tout le monde va acheter là-bas. Mais une des très célèbres. Je ne sais pas c'est laquelle. Je voulais lui tirer les verres du nez pour aller faire un scandale, il n'a pas voulu me dire. Donc j'ignore c'est laquelle. Mais te dire, c'est avec un hercher, pas un hercher des bons. Moyen, d'accord, Rabina, Bédine, un truc comme ça. Très très moyen. Encore une fois, eux font le boulot comme il faut, le rabbinat, qu'est-ce qu'il veut? On ne peut pas donner un hercher bon à tout le monde. Ça coûte très cher. Donc les gens ils vont dire, non, je ne vais pas acheter cachère, je préfère acheter taref. Pour qu'il y ait plus de gens qui achètent moins taref, une cacheroute qui est bancale, mais quand même c'est mieux que rien, alors il y a le rabbinat. Le rabbinat essaie de mettre le maximum de gens, donc ils font une cacheroute light. C'est bien. C'est bien pour les gens qui sont light. Mais quelqu'un qui veut maintenant être plus sévère avec lui-même, il ne peut pas compter sur une cacheroute light. Parce que la cacheroute, elle est faite pour que les gens mangent moins taref, pas pour que les gens mangent cachère. On ne peut pas dire que c'est taref, on peut dire que c'est cachère, c'est moitié-moitié, d'accord? Et c'est à gros risque. C'est à gros risque. Alors le type m'a dit, il a travaillé 2 ans là-bas, il a parlé, je ne vais pas. Bon, enfin, il s'est plaint, il a fait des histoires. Il y a de la magouille, il y a des trucs comme ça. Et c'est comme ça partout, les gens aiment l'argent. Je me souviens à l'époque, quand j'étais à Vrère, quand j'étais jeune, il y avait la viande coûtait cher. On achète des bons herchers, ça coûte beaucoup plus cher. Une fois, on a appris qu'il y avait une équipe qui est partie faire de la shrita, égorgée, au Brésil, le Rav Liechtenstein. C'est un très très bon chorette, très bon égorgeur, une très bonne équipe. On pouvait compter sur 100% que c'était vraiment très très bien. Bon, au lieu que ça vienne d'un hercher super cher, ça venait d'un rabbanout arachit, le rabbinat d'Israël. On n'achète pas ça d'habitude parce que c'est cool, comme si comme ça. On nous a dit, tu prends les boîtes sur lesquelles il y a un petit L, ça veut dire Shenshan, c'est ça. C'est certain que c'est bon. C'était la ruée vers l'or. Tous les centaines, milliers d'avrakim sont allés partout, ils cherchaient des caisses. Le type, il a dit, il est revenu là-bas, il dit, c'est marrant. J'ai égorgé 4 tonnes de viande. Et on a vendu 9 tonnes de viande avec le sigle L. Les gens voyaient que tout le monde voulait du L, du L. Ils ont commencé à faire du L, d'accord. Regardez, c'est pas compliqué. Ou tu fais un L, ou... Je raconte une histoire personnelle. Quand moi, j'ai eu le Shabbat Ratan de mon fils. Deux histoires, avec c'est extraordinaire. Deux histoires avec le Shabbat Ratan de mon fils. D'abord, on avait des gens super religieux, je voulais un très bon hercher. On me donne le nom d'un catering, de Hadera, je ne sais plus quelle ville là-bas, ok. Il vient chez moi à la maison, une grosse kippa noire comme ça, dans laquelle il a un super bon hercher. Très bien, ok, on prend le menu, etc., etc. On fait le Shabbat Ratan. Le lendemain, le journal annonce qu'on a retiré à ce type-là son hercher parce que pour fraude qui a des magouilles. Donc, alors moi, je n'ai pas compté parce que je ne compte pas sur les herchers. J'envoie mon propre mashgiach. J'envoie un mashgiach à moi que j'ai payé qui était sur place. Donc lui vérifie tout qui quoi comment bien. Mais il y a des magouilles. Bien sûr qu'il y a des magouilles. Quelles magouilles ils ont attrapé chez lui? Il avait un herchère du Rav Marfoud. Le Rav Marfoud, on reconnaît ses poulets parce que pour la salaison, ils ouvrent un peu le poulet pour que le sel et l'eau puissent... D'abord on rince avec de l'eau, après on met du sel, après on rince de nouveau. Pour que ça rentre bien. Alors ils ouvrent avec des ciseaux, ils ouvrent un peu la carcasse du poulet. Lui, qu'est-ce qu'il faisait, cette ordure-là? Il achetait des poulets rabanout du rabbinat. Ça coûte 2-3 shekels en moins. 2-3 shekels fois des centaines, ça fait de l'argent. Donc il y gagne. Il se dit, qu'est-ce qu'il dit dans sa tête? Bon, c'est pas taref. J'ai pas pris maintenant des poulets morts dans la rue, j'ai pris des poulets cachers. Qu'est-ce que ça change, marfoud, rabanout? Bien sûr que ça change, parce que le marfoud, c'est beaucoup plus sérieux. Mais lui, dans sa tête de tordu qui cherche à avoir de l'argent, il dit, je roule pas les gens. Ou c'est oui, un tout petit peu, c'est pas si grave, je suis prêt à prendre cet enfer. Au moins j'aurai des bonnes vacances avec ma famille grâce à cet argent que je vais gagner. Alors qu'est-ce qu'il faisait? On voit la différence entre les poulets marfoud et les poulets cachers. Comment? Parce que les poulets cachers rabanout, c'est pas ouvert, marfoud c'est ouvert. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les ciseaux, il ouvrait. Il achetait rabanout avec les ciseaux, il faisait comme ça. Donc le mashgiach qui vient, il regarde tout ça, c'est des poulets marfoud, ça a pris un jour, il s'est dit, c'est marrant, je vois jamais les emballages. Montre-moi les emballages. Il cherche pas d'emballage. Il voit dans la poubelle, il voit les emballages. Rabanout, il a compris, il a enlevé le hercher. Pour nous, c'est la yeshiva, même si on fait dans un endroit super, super cachère, c'est une loi que tous les gens qui font leur vote, d'accord, ceux qui sont fiancés, reçoivent le règlement de la yeshiva, la yeshiva ne viendra pas à moins qu'on amène notre mashgiach à nous, un type extérieur, qu'on paye spécialement, qui vient et qui connaît le métier, qui fait attention, qui sait se battre contre les cuistots. Ils ne sont pas contre les cuistots. Tu leur casses tout des fois, d'accord, ils ont besoin d'un peu, il manque un machin, allez, il faut qu'il y ait un bon goût. T'as un produit, il n'est pas super, allez, ça va. C'est pas ta rêve, c'est juste pas un bon hercher. On veut pas. Première histoire de mon Shabbat Ratan, deuxième histoire de mon Shabbat Ratan. Un autre quelques semaines auparavant, non, la même semaine, quelqu'un a fait Shabbat Brachot pour mon fils, il y avait des belles olives vertes, syriennes. Très dur à l'époque de trouver ça avec un bon hercher. Il y avait des moches comme ça, c'était belle. Je lui dis, où t'as acheté ça? Il me dit, oh, tu vas au chouk, au marché. Là-bas, il y a un magasin, tu vois. Je vais au marché avec mes deux filles là-bas. Je vois une pile comme ça étant de belles olives, tout ça. Et en haut, c'est marqué magasin. Tous les produits sont avec Hersher du Badatz Ruby. Ruby. Ça n'existe pas. Il y a Badatz Rubine. Mais le Noun, il est tombé. Il ne reste plus que Ruby. En fait, c'est une combine qu'il a fait. On peut pas. Les gens croient que la dernière lettre, elle est tombée. En fait, il n'a pas du tout un hercher de Rubin, mais on ne peut pas l'attaquer. Donc, il veut dire que tu l'attaques, moi je dis Rubin, c'est Rubin. C'est quoi Badatz? Badatz, c'est on fait un Bedin. Nous trois, on a Bedin, allez, on est Bedin. On appelle le Bedin Shaya maintenant, d'accord? C'est pas dur de faire un Bedin, tu décides. Alors, là, fait Rubin. Rubin, c'est un diminutif de Rouven, d'accord? Rubin, c'est le nom des copains, comme ça, entre voyou ou Rubin, d'accord? C'est un nom de. Un diminutif. Bon, je vois la belle pile de livres comme ça. Je vais acheter 5 kilos. Je dis, ok, au lieu de me. Je lui dis, quel hercher c'est? Il me regarde comme ça. Il arrive de voir si je suis Ashkenaz ou Sfarad. Le type qui a fait le Shabbat Brachot qui m'a conseillé était Sfarad. Alors lui, il lui a dit c'était Marfoud. Moi, il me voit, j'ai une tête d'Ashkenaz, il m'a dit Rubin. Rubin, très bien, allez, donne-moi 5 kilos. Bon, comment ça donne? Je lui dis, tu sais, au lieu de me donner comme ça à l'appel, donne-moi une boîte de conserve. Il y a des boîtes de conserve de 5 kilos, donne-moi une boîte de conserve comme ça. Ok, il me dit pas de problème. J'attends, il va chercher là-bas. Du coup, je vois un des employés qui sort avec une boîte de conserve comme ça d'olive, qui part. Pour 5 minutes, après 5 minutes, il revient. Tac, on me sort une boîte de conserve. Ça sent mauvais. Pourquoi le type est sorti? Il est revenu pour tellement de temps. Et puis je vois, c'est pas le même Herscher qui m'a dit, c'est pas Rubin, c'est un autre Herscher. Un bon Herscher, mais pas Rubin. Bon, je paye. Et puis je me dis, il y a un truc qui cloche là. Bon, je vais à un autre magasin, 100 mètres là-bas, qui vend aussi des olives. Là-bas, c'est un type religieux avec une petite kippa comme ça. Je lui dis, je le connais un peu, je lui dis, dis-moi, j'ai acheté ça. Et j'ai l'impression qu'elle combine. Je sais pas si, j'ai l'impression qu'il a mis un autocollant. Je crois qu'il a pris la boîte de conserve, il a mis un autocollant, il a là-bas dans un petit grenier, il a les autocollants comme tu veux. Quel Herscher que tu veux, il a mis un autocollant avec comme quoi il y a un bon Herscher dessus, et il est revenu. Le type dit, c'est pas compliqué. Sur l'autocollant, il y a une date, et sur la boîte de conserve, il y a une date. Si c'est pas la même date, ça veut dire que c'est fallacieux qu'il y a ici une magouille. On vérifie, c'est pas la même date. Je vais revoir le type, je lui dis, écoute, je vais rendre le truc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de Herscher. Il a très peur que je fasse une plainte, donc il m'a engueulé tout ça. Je lui dis, je te fais rien, rends-moi l'argent. D'accord? Il a repris le truc et il m'a rendu l'argent. Magouille. Magouille.
Dans ce cas-là, vous
n'avez
pas un
rio
de
John? Ouais, il y a un rio derrière tout le monde. Mon voisin, le numéro 4 de ma vie, de ma rue, au numéro 8, il y a un type, son boulot, c'est, il dévoile, chaque semaine, il annonce sur Rabbanout les fraudes de cache-route. Chaque année, chaque semaine, il y a une page avec le magasin Intel, on a enlevé ça pour fraude Intel, le restaurant Intel pour fraude Intel. C'est plein de problèmes. Faut pas être naïf. Les gens aiment l'argent, les gens sont prêts à vendre leur mère pour l'argent, surtout à vendre leur cache-route pour l'argent. Et j'ai comme ça des histoires bliss off, sans fin. Il y a un arabe ici dans les territoires, il a créé une usine de c'est pas compliqué. Il trouvait des poulets morts. Il les mettait dans des emballages, il a obtenu des emballages de poulets de la Rabbanout. C'est compliqué d'avoir ça? Pas du compliqué. C'est même d'en faire des emballages. À Pessah. Alors il mettait comme ça des poulets morts. D'accord, jusqu'à ce qu'on l'a. Il y avait une vraie usine qui mettait dedans, un vrai truc. Combien il a vendu de poulet? À Pessah, c'est le pire. À Pessah, les gens se ruent. Ils doivent acheter pour 8 jours de la nourriture. C'est une vraie. Ça commence environ une semaine avant Pessah. Pendant 3-4 jours, il y a des queues de 3-4 heures dans tous les magasins alimentaires. Les gens doivent acheter. Maintenant, pourquoi c'est une bonne affaire pour les magouilleurs? Parce qu'il y a peu de temps. Et tu peux vite vendre un produit et après disparaître du marché. On n'a pas encore le temps de dévoiler et de t'attraper. C'est là où il y a plus de magouilles. Le Badatz, il sortait une brochure avec tous les produits sur lesquels il donne le Herscher. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué de recopier l'emblème du Badatz. Et les gens faisaient n'importe quel produit avec l'emblème du Badatz et les gens achetaient. Alors ici à Jérusalem, dans les quartiers religieux, les gens font attention. Alors ça, ils font pas assez, mais ils écoulent où leurs marchandises? Dans les petites villes, comme ça, les gens un peu simples. Voilà, Herscher du Badatz, c'est pas du tout, c'est complètement chametz. Les gens achètent, ils vont pas vérifier dans la brochure du Badatz. Et chaque année, il y a des fraudes, on l'appelle Badatz. Non, on n'en a pas donné un Herscher sur ce produit-là. On va chercher maintenant les gens, disparus de la circulation. Énormément.
Comment on fait dans les hôtels qu'on va dans un hôtel?
La plupart des gens ne
demandent pas, ils voient
cacher. Cacher, absolument rien dire. Maintenant, il y a un autre problème. Il y a un problème aussi, pour nous les Sfaradim, il y a un problème, bon, peut-être on peut alléger, on va dire ça va. Allez, on ne va pas parler de ce problème, c'est déjà une Khumra. D'accord? Encore la semaine dernière, j'ai parlé de quelqu'un qui revient maintenant de Khous Laaretz, il fait un copain à moi, c'est un grand rave, il fait du lait cacher. Du lait chamour. C'est quoi le lait chamour? Chazal, nous sommes jamais voir béni, il y a 2000 ans, ils ont fait un décret. On a peur que si tu achètes le lait d'un goy, il va mélanger là-bas du lait de chamel ou du lait d'ânesse. D'accord? C'est taref. Tout ce qui sort d'un animal taref est taref. D'un animal tamé, d'un animal impur, c'est impur. D'une vache taref, c'est taref aussi. Une vache qui a un problème, un trou dans l'estomac, d'accord? Un trou dans le poumon, un trou, une des 18 tréfautes, le lait qui sort, il est tout aussi taref. C'est comme manger du porc, ça remet au même. On ne peut pas vérifier si la vache est taref ou pas. Alors on compte sur la majorité, aussi une annulation, que c'est mélangé à beaucoup de lait, donc que ça peut aller. Mais si on n'en a pas le droit, si je sais maintenant que j'ai une bête qui est taref, par exemple, il manque une jambe, par exemple, elle est taref, d'accord? Alors on n'a pas le droit de prendre son lait est taref. Alors de peur qu'on mélange, qu'un goy mélange du lait taref ou du lait tamé, d'ânesse ou de chamel, au lait de vache, Chazal ont interdit de boire du lait ou fromage, etc. Le beurre, ça va, parce que le beurre, on ne peut pas faire du beurre à partir d'un lait de chamelle ou d'ânesse, que du lait de vache. Mais fromage et lait, on n'a pas le droit, s'il n'y a pas une surveillance, un œil juif a vu depuis la traite jusqu'au produit fini, que le lait il est sous surveillance. On appelle ça halal shamour. Que le lait a été gardé. Maintenant, certains décisionnaires, dont le Moshe Feinstein, autorisaient, dans les pays dans lesquels la législation du pays interdit de façon extrêmement grave, de mélanger un autre lait au lait de vache. Par exemple en Suisse, ou en France, en Amérique. C'est complètement interdit par la loi. T'imagines qu'on apprend que dans le lait suisse, maintenant, il y a du lait de chamelle, ça fait un scandale, c'est fini. La Suisse, elle part en cacahuète, d'accord, tous les bons fromages suisses, etc. Toute leur, c'est le lait suisse, d'accord, des bons pâturages. Alors, voilà, idem américain, etc. Donc, ce rabbin a dit que si la législation du pays interdit de façon extrêmement formelle et vérifie sur le terrain qu'il n'y a pas d'autre lait que le lait de vache, on peut compter là-dessus, parce que c'est un décret des rabbanan, c'est pas de la Torah, et que vu qu'on voit maintenant qu'il n'y a aucun danger, qu'il y a du lait de chamelle, du lait d'ânesse en Suisse, il faut aller trouver une chamelle là-bas en Suisse, c'est pas trop facile, d'accord. Donc, normalement, il n'y a pas de problème, on peut compter là-dessus. Les Sfaradim ne sont pas d'accord sur tout ça, qui disent seulement en cas de, c'est très difficile pour les enfants, des choses comme ça, on peut compter là-dessus. Mais a priori, on doit prendre du lait qui soit chamour. Parce que si on prend du lait qui n'est pas chamour, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est du lait de vache. Il n'y a pas eu une garde juive dessus. Ok, alors, d'après certains avis, les Sfaradim, c'est interdit, mais c'est des rabananes, c'est un décret des rabananes. C'est pas que j'ai mangé du taref. D'après certains rabbins ashkenazim, c'est permis. Et même pour les Sfaradim, pour les enfants et choses comme ça, les vieux, on ne peut pas autrement, on n'a pas le choix, on peut. M'a dit, il y a quelques années, quelqu'un, et j'en ai parlé justement à ce rab, qui a vérifié, qui m'a dit, oui, c'est vrai ce que vous dites là, que le lait qui n'est pas chamour, il y a un très gros problème. Lequel? Les vaches laitières, elles mangent du foin, elles mâchouillent, elles ruminent. Le fait qu'elles mâchouillent, qu'elles ruminent, ça crée de l'air dans l'estomac. Maintenant, l'air n'est pas évacué, et il prend de la place dans l'estomac. Toute la place qui est prise par l'air dans l'estomac, c'est la place du lait que cette vache peut faire. Une vache, il faut qu'elle soit rentable. Tu lui donnes du foin, ça coûte de l'argent. On sait qu'une bonne vache, il y avait une vache en Israël, je crois qu'elle arrivait à donner, il y a quelques bons 5, 6, 7, 8 litres, je ne sais plus combien, par jour. D'accord? C'est très bien, une vache, plus elle donne de lait, mieux c'est. Quand elle a de l'air dans l'estomac, elle donne beaucoup moins de lait. Alors, que font les vétérinaires? Ils font une perforation de l'estomac. Il y a une petite aiguille, tic, ils mettent dans l'estomac. En un jour, tout l'air sort, et en un jour aussi, c'est cicatrisé. C'est tout. Pendant une journée, tu as un peu d'air qui sort par ce petit trou, comme un pneu avec un tout petit trou. Ça sort. Après, vu que c'est de la chair, c'est pas un pneu, ça se cicatrise, et comme ça, hein, tout l'air sort, elle peut faire beaucoup de lait. Mais un problème, un trou dans l'estomac, c'est taref.
C'est cicatrisé.
Cicatrisé, marloquette. Et qui dit que c'est taref, ils disent que c'est pas taref. C'est un doute. Dans le doute, on doit aller prendre l'avis sévère, mais que c'est d'oraita, c'est interdit de la Torah. Alors, dans tous les laits qui sont chamours, il y a une clause que la bête ne doit subir aucune perforation de vétérinaire. Et il y a un suivi sur chaque bête, qu'est-ce qu'elle a eu? Quelle intervention de vétérinaire? Donc, il y a un suivi, ils regardent, donc ils vérifient. Maintenant, tu prends du lait qui n'est pas chamour. Tu dis, j'ai pas de problème, c'est du bon lait. Oui, mais il y a un risque, ils ont mis du lait de chamelle. Ah, ça va, mon vieux. Lait de chamelle, la sont du pays, en plus, il y a mon cher Feinstein, il l'autorise, etc. Il autorise, mon cher ami, il autorise lorsqu'il n'y a que le risque de lait de chamelle qui est nul et non avenu, vu qu'il y a une législation du pays qui est interdit. Mais il n'a pas interdit, il n'a pas permis la perforation. Ça, il ne savait pas que ça existait, ou de son temps, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, du lait non chamour, c'est presque évident que tu bois du lait taref. Parce que la majorité des bêtes, elles ont subi une perforation pareille.
Oui, pour tout ce qui est les gâteaux au lait, par exemple.
Tout ce qui contient du lait, bien sûr.
On fait comment?
Ben, on prend du lait chamour.
Et quand tu sors, Non, mais il y a écrit cachère.
Écrit cachère signifie absolument rien. Que tu comprennes, rien. Ça veut dire, c'est moins grave. Mais c'est pas cachère. C'est pas, faut pas croire que ça marche. Cachère signifie cachère. Comprenez bien ça, ne vous détrompez pas. Faut pas tomber dans le panneau. C'est un gros panneau. Nous garantissons que cet élément est absolument cachère, c'est faux. Comment on peut garantir? Qui peut garantir? Quel million de choses peut se passer dans un paquet de n'importe quoi? Il n'y a presque rien qu'on peut être certain qu'il n'y a pas du cachère dedans. Les gens à l'étranger qui veulent aider Israël, ils vont acheter maintenant des fruits d'Israël. Interdit! Interdit! Il y a des tas de choses qui... Orla, problème de Orla, problème de Trouma, Trouma Gdola, Trumat Maaser, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Shvi'it, Kilaim. Des millions de problèmes. Achète des tomates, des oranges d'Espagne. Ah, mais on veut aider Israël. T'aides pas Israël, tu manges ta ref. Tu manges des... Mais il n'y a rien, c'est juste qu'une pomme ou un avocat. Non, monsieur, il faut apprendre les lois. En France, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de problèmes avec les pommes et les avocats. En Israël, il y en a. Et même quand ça part à l'étranger, c'est un problème. En tout cas, d'après la majorité des post-crim, c'est un gros problème. Donc, pas être naïf. On doit faire le maximum pour manger kasher. Pour ça, il faut faire extrêmement attention. Ça vaut la peine qu'on voit un restaurant, d'appeler le mashgiach. Ça va poser les bonnes questions. D'où viennent les salades? La vérification des tolaïm, des verres. Qui l'a fait? Tu sais combien de bestioles il y a dans une salade? Alors, il faut une salade qui soit cachère sans bestioles. Ça aussi, il faut la rincer, mettre au savon, tout ça, il y a des choses à faire. Un restaurant, on n'a pas le temps, allez, c'est bon, terminé. Combien de bestioles tu manges?
Par exemple, pour avoir au restaurant, ils nous disent la viande, elle est badate. En vérité, c'est quoi le... C'est qui vérifie?
Personne ne vérifie. Personne ne vérifie.
Parce que même un goy, il peut acheter...
Bien sûr, bien sûr. Tu crois, il faut croire le type. Attends, si c'est un type religieux vraiment, et t'as un mashkir qui est sur place sans cesse, et tu es au courant, tu te renseignes aussi, c'est d'autres mashkirim, c'est d'autres gardes, est-ce que ce garde-là, il est sérieux? Tu dis que oui, alors ça peut aller.
Et dans les mariages?
Mariage, Shimon et Shiva, je te dis, on compte sur personne. On prend un mashgiach à nous qui vérifie sur place.
Et si vous êtes invité dans un mariage
de... Je mange pas. Je mange pas.
Ah, on mange pas là.
Ah, où je me renseigne. Je vais le type, t'as pris un mashgiach, qui c'est là que je... On se renseigne. On se renseigne. On se renseigne. Tu ingurgites maintenant, tu fais rentrer dans ton corps maintenant un truc qui peut être tamé. Tamé qui te bousille la vie. Ça te bousille la vie après. Vérifie. On mange pas n'importe quoi comme ça. Non?
Alors,
on se renseigne.
Alors du coup, quoi? Très peu de juifs qui mangent kasher ou qui font vraiment attention alors.
Il faut faire très attention. Sinon, c'est presque certain qu'on se fait avoir. Et chez nous à la maison aussi, qu'est-ce que j'en sais moi? Les produits qu'on nous a. Alors on prend des produits super kasher, mais allez savoir qui est quoi comment. Donc j'ai dit, on ne peut pas être certain à 1000%. Ce qu'on peut faire, et c'est notre devoir, on doit limiter la casse. Faire en sorte que quand je vais entrer au ciel, je dis, écoute, j'ai fait mon maximum. En tout cas, près de mon maximum. Pas dire j'ai compté sur. On ne peut pas compter sur. On ne peut pas compter sur. Faut pas croire, les gens...
Ça revient un peu avec le sujet qu'on avait eu avec Jérémy sur le capitalisme et la bouffe. C'est que on vit tellement dans une société où on peut avoir accès à tout, qu'on peut pas tout vérifier. Alors qu'avant, les Tanaïs, les Amora, ils avaient
ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors certes, ils mangeaient pas diversifié, 25 VFP et légumes par jour, mais au moins, ils savaient ce qu'ils mangeaient.
Absolument. Ah. Bon, avec ma chère, j'espère que ça s'arrangera.
Par exemple, vous avez dit... Moi, on est en France, on vit en France, c'est cachère, mais nous on veut badat, on veut halak, on veut vraiment cette viande-là. Est-ce que c'est permis de prendre une viande, la viande par exemple, je suis à Marseille, de Paris ou du...
Pourquoi pas?
Il n'y a pas un problème pas sur son consistoire?
Je me dis, ah oui. Si tu fais un restaurant et tu veux que le consistoire te donne toi l'achat, d'ailleurs tu prends ma viande. Il y a des concurrences et des machins, qu'est-ce que j'en fais moi? Mais chez toi à la maison, tu fais ce que tu veux, jamais de la vie. Je suis pas obligé de manger leur viande à eux, ça va pas. On n'est pas encore un pays totalitaire, tu mangeras ce que je veux. Baruch Adonai, Roman Bahamé.